France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur la droite dans la présidentielle française. Rappel des derniers développements, François Fillon à ce stade restera candidat. Il vient de dire qu'il est le seul légitime, il se dit plus déterminé que jamais. Du coup, en conférence de presse ce matin, Alain Juppé avait renoncé différemment et livré une critique virulente de son camp, du candidat LR et de l'électorat radicalisé, a-t-il dit. Les centristes de l'UDI réaffirment leur refus de soutenir François Fillon. Le spectre d'une disqualification de la droite dès le premier tour est désormais envisagée par la droite elle-même comme une hypothèse sérieuse. Inimaginable après la primaire, la droite est au bord de la rupture. Intervenez, vos questions 01 45 24 7000, franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Telson.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Et pour en parler, permettez-moi de vous présenter les invités de ce téléphone sonne. Jérôme Jaffré, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, directeur du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique. Jean-Louis Bourlange, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien député européen, soutien d'Emmanuel Macron après France Culture. Vous avez l'asile politique sur France Inter, mais juste pour 40 minutes. Hein. Après, on vous expulse du studio. Raphaël Glucksmann, bonsoir.
Bonsoir.
Essayiste, auteur de Notre France, dire et aimer ce que nous sommes chez Alary Édition. Messieurs, en quels termes décririez-vous le moment dans lequel on est, l'implosion de la droite ou autre chose? Je vous laisse le choix des mots, Jean-Louis Bourlange.
Je crois que la situation est effectivement très préoccupante parce que, et d'ailleurs, c'est en quelque sorte la foudre au ralenti qui frappe la droite. Au départ, tout allait bien, c'était une partie de campagne que les primaires, tout le monde était poli, tout le monde avait sa cravate ou pas de cravate, tout le monde se parlait bien, il y avait des différences
de sensibilité, de
nombre,
oui,
des d'approche. Différences sur les programmes. Oui. Et puis, peu à peu, ça s'est vraiment creusé. On a vu d'abord, dès le second tour, qu'il y avait une différence assez sensible entre l'approche de M. Fillon qui se voulait au cœur de la droite, alors que Juppé se voulait au cœur de la société française. Ça s'est tendu. Ensuite, à travers les problèmes, le révélateur des faiblesses personnelles de la candidature Fillon, sur laquelle nous ne reviendrons pas, mais qui était effectivement très lourde, ces faiblesses, et qui sont apparues chaque jour un peu plus lourdes, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment deux sensibilités. Comme à gauche, la gauche est divisée entre deux sensibilités profondément différentes. Il y avait une sensibilité et que ça correspondait à des structures très profondes dans l'histoire des droites françaises. On avait d'un côté, disons, la droite social-libérale européenne, pour parler comme Barre et Giscard, qui est une droite qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, était dominée, en fait, intellectuellement par la figure de Raymond Aron, si vous voulez, ce que représentait et qui était l'héritier d'une république modérée, de Poincaré, de Jules Ferry, de Waldeck-Rousseau, des gens très inscrits dans la République. Puis, à côté de ça, des traditions de droite beaucoup plus profondes, soit maurrassiennes, soit catholiques profondes, soit maurrassiennes, donc positivistes plutôt catholiques, des choses extrêmement profondes qui sont réapparues. Et maintenant, on est dans une situation extraordinaire où on a en fait Grégoire Kaufmann connaît mieux le Front National que moi, mais on a trois sensibilités qui coexistent. On a la sensibilité libérale sociale européenne qui était représentée par Juppé et qui est en débandade. Qui va rejoindre Macron ou rejoindre je sais pas un autre candidat, mais qui est vraiment en débandade, à laquelle j'appartiens. Moi, c'est pour ça que j'avais fait le choix de Monsieur Juppé à la primaire, j'ai fait le choix d'Emmanuel Macron parce que je crois que c'est le plus proche de cela. Deuxièmement, nous avons cette droite, cette extrême droite païenne, j'ai fini, rassurez-vous. Nous avons cette extrême droite païenne du Front National qui est à la fois qui est protestataire, qui est incarnée par Marine Le Pen, qui est populiste, ouvriériste. Et puis troisièmement, on a cette partie de l'extrême droite qui était incarnée par Marion Maréchal Le Pen, qui est une droite catholique, liée à des valeurs catholiques très traditionnelles, qui est séduite par l'illibéralisme du Trump, de Orban, c'est-à-dire une démocratie qui fait fi de la liberté de l'information, des juges, et ces trois droites coexistent. Et je pense que là, nous sommes dans une situation qui est extraordinairement périlleuse pour elle. La victoire imperdable est en passe d'être perdue.
Jérôme Jaffré, est-ce que vous voulez mettre du mouvement dans ce tableau large et ample que vient de décrire Jean-Louis Bourlange ?
Comme Jean-Louis Bourlange, je réponds à votre question. Vous avez demandé en un mot. Je fais donc comme mon
Cinq
ami.
Cinq minutes.
Je fais donc comme mon ami aussi brièvement. C'est une droite en lambeaux, bien sûr. C'est une droite en lambeaux qui essaye de repartir à la reconquête du pouvoir. C'est quand même une performance invraisemblable quand on y pense, hein. Vu l'échec du gouvernement socialiste auprès des Français, la volonté d'alternance qui existait dans ce pays, qui existe dans ce pays, toujours, que la droite se trouve dans la situation d'un quasi-impeachment politique et d'opinion, c'est un événement tout à fait considérable. La droite, historiquement, là je vais faire plus court que Jean-Louis Bourlange.
Bah, il a déjà bien exploré le sujet.
Elle appelle la synthèse. Et là nous avons un problème, c'est la primaire. La primaire, dans ce système, a été finalement quelque chose de redoutable. Parce que la primaire, d'une part, c'est une machine à éliminer politiquement tout autant qu'à sélectionner un leader. Et effectivement, Alain Juppé était dans une situation où, ayant été battu aussi nettement à la primaire, il était très difficile de dire « Hey, je reviens, c'est moi qui m'impose ». Et puis, elle a poussé à une radicalisation idéologique et à la perte de la synthèse au sein de la droite. C'est ça le problème fondamental. À partir du moment où le camp qui s'est radicalisé idéologiquement a gagné à travers un champion qui était finalement François Fillon et pas Nicolas Sarkozy, on a une synthèse perdue. Et du coup, Fillon est très fort quand il dit c'est d'ailleurs le problème qu'a eu Juppé. En d'autres termes, défendez mon projet si vous voulez être candidat. Si vous voulez pas défendre mon projet, vous n'avez aucune raison de l'être. Quant à Nicolas Sarkozy, qui en sous-main cherche à rester le maître de la droite, le parrain de la droite par derrière, c'est dire à Juppé, si vous voulez être candidat, prenez mes hommes. Dans cette situation, on comprend effectivement que Juppé, d'une voix un peu sépulcrale, il faut bien le dire, ce matin, a renoncé à toute candidature.
Allez, on poursuit le tour de table avec Raphaël Glucksmann, pas avec Grégoire Kaufmann, la langue de Jean-Louis Bourlange a fourché.
Oui.
Allez-y, Raphaël, votre sentiment sur l'état de la droite?
C'est un vrai lapsus.
Non, sur l'état de la droite, c'est un sentiment d'abord de tristesse, parce que ce à quoi on assiste, c'est au kidnapping de la droite républicaine par sa frange la plus extrême. Ceux qui ont assuré le demi-succès du Trocadéro, c'est la Manif pour tous, ses sens communs, son émanation politique, et une dérive progressive vers un langage même d'extrême droite. Et donc là, il y a une légitimation en plus des attitudes et du discours du Front National qui est en train de s'opérer. Je pense que c'est dangereux non seulement pour la droite, mais dangereux pour la France. Et l'autre chose qu'il faut noter, et c'est aussi un très mauvais signe pour la situation politique française, c'est que les plus beaux discours, les discours qui marquent pour l'instant cette campagne électorale, ce sont les discours des gens qui renoncent à être candidats. Quand on écoute Alain Juppé ce matin, tout le monde se dit
tout d'un quel coup, grand homme,
quel homme d'État. Et ça veut dire qu'il y a un malaise profond. Pour que Bayrou marque plus en un discours que l'homme qu'il rejoint en 10, pour que Alain Juppé marque plus en un discours que toute sa campagne électorale, Alain Juppé plus toute celle de François Fillon, il y a là un très mauvais signe qui est en fait qu'on assiste à la fin d'un monde. Alors ça peut être bien plus tard, mais aujourd'hui c'est extrêmement dangereux et nous avons une situation politique extrêmement trouble.
Je voudrais donner la parole aux auditeurs de France Inter. Je salue Laurent qui ouvre ce téléphone sonne au standard. Bonsoir.
Bien, bonsoir, merci de me donner la parole. Je vais essayer d'être rapide. Moi je suis un petit peu surpris. Je me demande si cette explosion ou cette implosion, elle ne vient pas justement de la radicalisation, comme on disait. On a vu hier cette manifestation, tout le monde sait que c'est soutenu principalement par Sens Commun et puis la Manif pour tous. Mais je trouve qu'on en parle peu, on dit pas, c'est un peu tabou, et je me dis, même si ça se trouve depuis le début, depuis la primaire, c'est ce qui a fait passer Monsieur Fillon avant Monsieur Juppé, en fait. C'est là où on a tous été surpris. Voilà ma question.
Merci beaucoup, Laurent. On va faire tourner la parole ici. Jean-Louis Bourlange, je vais le dire dans mes mots, en plus de ceux de Laurent, est-ce qu'il y a un effet Tea Party par rapport au Parti Républicain? Est-ce qu'il y a là, en Amérique, est-ce qu'il y a la Manif pour tous, Sens Commun, qui a le même rôle, au fond, demande notre auditeur, dans le Parti Les Républicains en France?
Oui, je crois que la différence entre le Front National d'un côté et les manifestations qui sont où le Front National dans sa manifestation Marine Le Pen et les manifestants d'hier qui étaient Fillon, Sens Commun, c'est la différence qu'il y a entre Trump et le Tea Party. D'un côté un populisme protectionniste tourné vers les valeurs économiques assez profondément immoral ou indifférent aux valeurs de moralité, de l'autre un hyper traditionnalisme qui partit d'un combat contre le mariage pour tous, et c'est effectivement durci et donne lieu à quelque chose de tout à fait différent. Mais je pense que nous sommes là dans une situation générale, c'est-à-dire que véritablement nous avons, avec un système politique qui reste bipolaire, hein, des élections présidentielles qui se termineront par l'affrontement entre deux candidats, des élections législatives qui sont marquées par un système majoritaire à deux tours qui se termine en règle générale par l'affrontement de deux candidats, nous sommes confrontés maintenant à quatre grands blocs de sensibilité qui ne recoupent pas d'ailleurs exactement les partis, un bloc de droite qui vraiment autoritaire, nationaliste, protectionniste, païen chez les uns, traditionnaliste chrétien chez les autres. Ensuite, cette droite libérale sociale européenne, une gauche qui également se cherche et qui cherche à faire avec Macron une fusion, hein, une espèce de rapprochement plus social, moins libéral, un peu européenne en tout cas. Et puis, ce bloc protestataire qui se divise lui-même en deux familles, une famille à caractère protestataire et révolutionnaire avec Mélenchon, et une dimension très profondément utopique, avec ce que ça comporte de positif et d'irréaliste, avec Benoît Hamon.
Jérôme Jaffray, puis Raphaël Glucksmann.
Oui, François Fillon, l'un des problèmes qu'il rencontre, c'est qu'il agit actuellement en totale opposition avec le fillonisme. Le fillonisme tel que nous l'avons connu, tel qu'il existait, qui était finalement assez modéré, respectueux des institutions, et donnant la leçon à Nicolas Sarkozy durant son quinquennat, d'une certaine façon, et ouvertement après le quinquennat, sur le populisme, la dérive, la façon de s'exprimer dans le débat politique. Et maintenant, Fillon en est à utiliser les mêmes méthodes, ce qui fait du coup une rupture d'image absolument considérable, et où les électeurs ont beaucoup de mal à s'y retrouver. Mais dans l'attitude qu'il prend aussi aujourd'hui, en durcissant les choses pour continuer à être candidat, il a un autre problème, me semble-t-il. C'est que son projet a commencé par être fortement critiqué par les électeurs après la primaire. Les électeurs ont voté dans la primaire plus sur des valeurs et par rejet personnel de Juppé, rejet personnel de Sarkozy plus exactement, et rejet politique de la ligne Juppé, dont ils avaient le sentiment que c'était pas très clair, qu'il se situait pas clairement à droite, et quant à Sarkozy, on ne voulait plus le voir comme président. Donc on est dans une situation où Fillon a été porté. Les valeurs, il avait les messages, et puis la personne qui permettait de trouver la solution entre Juppé et Sarkozy. Mais du coup, on a une situation où, après la primaire, on a découvert un peu son projet, et ce projet, même parmi ses propres électeurs de droite, était contesté. Mais maintenant, en durcissant les choses, c'est très difficile pour Fillon d'adapter son projet à la campagne présidentielle réelle. Parce que si Fillon, qui se maintient sur le thème « c'est moi qui ai un vrai projet, vous allez voir ce que vous allez voir, donc oubliez ce qu'on peut me reprocher », et vous avez entendu hier « j'ai fait des erreurs, je n'aurais pas dû, c'est excusez-moi de vous placer dans cette situation », et Fillon est de me placer dans une situation aussi extrêmement difficile pour pouvoir dire simplement, je maintiens fortement mon projet, alors qu'il faudrait l'aménager pour le rendre éligible auprès des Français. C'est donc une contradiction supplémentaire.
Raphaël Glucksmann.
La question, à mon avis, est posée par l'auditeur, est excellente. C'est la question centrale. On a tendance à mépriser les idées, le débat culturel, le débat idéologique. En réalité, dans un pays où Éric Zemmour vend 500 000 livres, où on a la manif pour tous...
Mais
où on a la manif pour tous, où le débat intellectuel est dominé par des figures réactionnaires, évidemment, il y a un travail idéologique qui est mené, qui fait que François Fillon d'abord gagne les primaires et ensuite maintient un socle de fans, de fanatiques qui peuvent descendre dans la rue pour lui et empêcher toute autre candidature. Et il y a eu là un grand échec de cette droite républicaine ouverte, libérale de Monsieur Bourlange, qui est que finalement il y a eu une défaite dans le débat à l'intérieur de la droite face aux éléments les plus réactionnaires.
Nous ne sommes pas les seuls. En France, dans le monde entier, cette sensibilité. Moi, je suis sensible. Je pense toujours à la pièce de Ionesco, à Rhinocéros. Je pense que nous sommes dans cette situation où les valeurs humanistes, libérales, qui étaient dominantes depuis la Seconde Guerre mondiale, qui étaient vraiment, à mon avis, je n'aurais jamais cru revoir ce que nous voyons aujourd'hui aujourd'hui aux États-Unis, en Philippines, un peu partout, même à la droite, tout ça, et partout nous sommes effectivement menacés. Je voudrais dire un mot sur ce, juste
il
un mot.
Il faut que Raphaël Glucksmann finisse son raisonnement.
Pardon.
Tout de même.
Absolument.
Allez-y.
Je suis.
Et donc la porosité idéologique qui s'est installée pendant des années entre le discours de droite et le discours du Front National conduit aujourd'hui à une porosité d'attitude. Ils parlent de la même manière, ils attaquent les institutions républicaines de la même manière, ils attaquent les médias de la même manière, et ça va se traduire nécessairement dans les urnes, une porosité dans les urnes. Quand aujourd'hui François Fillon adopte cette stratégie électorale-là, ce discours-là, eh bien si jamais il ne se qualifie pas au deuxième tour, ça va être très compliqué d'avoir un report de voix des électeurs de François Fillon vers autre chose que Marine Le Pen.
Jean-Louis Bourlange,
oui,
et le standard.
Je suis tout à fait. Je crois que l'un des problèmes de François Fillon, c'est que les affaires qui l'ont assailli l'ont obligé à modifier sa stratégie. Sa stratégie au départ, c'était de dire on fait des réformes qui coûteront des efforts, des sacrifices, j'incarne ces vertus sacrificielles. À partir du moment où on le voit les mains dans la confiture, il ne peut plus incarner ces valeurs sacrificielles et il faut qu'il garde un contact avec le peuple. Et que fait-il ? Il choisit de s'identifier au troisième de la primaire, c'est-à-dire au programme de Nicolas Sarkozy, et il laisse en carafe, si je puis dire, le programme quand même de gens qui ont fait à peu près un tiers des voix au second tour de la primaire, c'est-à-dire les électeurs de Juppé, qui étaient donc sur cette ligne libérale sociale européenne. Donc il fait une sorte de saut par-delà Juppé, vers le troisième de la primaire, et ça, il retrouve effectivement à travers ça un contact populaire, comme on l'a vu dans la manifestation d'hier, même s'il n'y a pas 200 000, c'est idiot, mais il y a bien 50 000 personnes autour de lui. Il y a donc un contact populaire qui se retrouve, mais qui se retrouve en rejetant complètement cette partie de la droite qu'on qualifiera d'humaniste, et qui, elle, se trouve, comme moi, comme bien d'autres, confrontée à un choix, et ce choix, pour moi, je l'ai résolu en décidant d'apporter ma voix à Emmanuel Macron.
N'aggravez pas votre cas et nos problèmes d'équilibre de temps de parole, Jean-Louis Bourlange. Je le dis avec le sourire, évidemment. Jérôme Jaffré, Raphaël Glucksmann soulevait un point qui est celui des reports de voix de l'électorat de François Fillon en cas de défaite de celui-ci. Est-ce que ça se reporte où, en fait ?
Alors, écoutez, nous n'en sommes pas là, quand même. La situation d'aujourd'hui, c'est très simple. Si nous avions un second tour Fillon-Marine Le Pen, il y a relative incertitude sur le vainqueur. Car en réalité, c'est la gauche qui aujourd'hui n'a aucune envie d'aller voter François Fillon. Les électeurs de gauche, je le rappelle, ils ont voté à plus de 80% pour Jacques Chirac dans un second tour de 2002 entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, en moyenne, les électeurs de gauche du premier tour sont à 30-35% sur Fillon et l'immense majorité veut s'abstenir en cas de second tour de ce type. Donc, on voit bien une situation dans laquelle Fillon, effectivement, est sorti un petit peu du camp républicain habituel et également par le dégât d'image qu'il a causé, un collapsus absolument terrible, politique, incontestable. Si nous avions un second tour maintenant, Macron-Le Pen, qui est l'hypothèse que prenait Raphaël Glucksmann, je pense.
Ou un autre,
mais enfin, c'est plutôt Emmanuel Macron, me semble-t-il, qui serait dans cette situation. On est moins dans une situation de blocage, mais il est évident que nous n'aurions pas 80% des électeurs de François Fillon qui se reporteraient vers Emmanuel Macron. Mais je remarque quand même, en étudiant les enquêtes d'opinion, que une partie quand même des électeurs Macron et Fillon sont en hésitation. Beaucoup sont partis chez Macron, mais en gardant des attitudes et des opinions de droite, très nettement. Et d'où le problème qu'a Emmanuel Macron, si vous me permettez de déborder très légèrement de votre sujet, mais on reste quand même bien dans la question, c'est que Macron est un peu obligé en permanence de tenir une partie de discours vers la gauche, une partie de discours idéal humaniste qu'aime au moins l'un des participants ce soir, et d'être de plus en plus un discours vers la droite pour récupérer ce qui peut être récupérable. Donc c'est un candidat qui aspire tous azimuts. Est-ce qu'il réussira cette performance pendant toute la campagne? La question est posée. Et pour Fillon, une fois qu'il aura réinstallé sa position, et il est en train de le faire apparemment, de candidat qui va jusqu'au bout, il aura quand même intérêt à revenir vers une forme de synthèse politique, sans quoi il va effectivement trop se réduire et effectivement être éliminé au soir du premier tour.
Véronique, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Alors moi, merci, bonsoir à tous. Et moi, je salue Jean-Louis Bourlange que j'entends sur France Culture.
Que vous entendiez.
Que j'entendais.
Et, merci,
et je suis aussi humaniste de droite, bonsoir. Je suis aussi humaniste de droite, mais par contre, moi, je ne suis pas du tout ce que je vais faire. Et d'abord, il y a une présomption d'innocence, donc j'attends un petit peu pour savoir si je voterai ce que je vais voter. Mmh. Et j'ai perdu mon idée.
Bah, vous nous disiez que vous étiez perdu, justement.
Voilà. Donc je suis un peu perdue. Ce que je pense, c'est qu'il y a une partie de l'électorat de François Fillon qui risque de se reporter sur Marine Le Pen. Parce qu'on voit que c'est vrai, c'était quand même une droite qui était bien à droite, bien ancrée à droite. Est-ce qu'il faut avoir tellement peur de l'élection de Marine Le Pen? Elle est déjà à 40%, s'il y a des électeurs
non,
de...
Non, elle n'est pas à 40%, non.
Enfin, au premier tour, on parle de 40%.
Non,
quand
non,
même.
27-28% maximum.
Au premier tour, je pense
au
que vous, vous pensez
oui.
au second tour, là,
d'accord.
non
Peut-être, mais si l'électorat de François Fillon et de certains de droite se reportait sur Marine Le Pen, et qu'elle soit élue, cette éventualité, est-ce qu'il faut tellement paniquer? Parce que de toute façon, il y a des législatives derrière, il y aura une cohabitation, donc est-ce qu'il faut vraiment être en panique?
Voilà. Merci Véronique pour cette question, la parole circule ici, Raphaël Glucksmann.
Je pense que oui, il faut paniquer, surtout si vous définissez comme appartenant à cette droite humaniste et pro-européenne. Il faut paniquer parce que on le voit aux États-Unis quand eh bien un candidat anti-institutions, anti-fonctionnement des institutions démocratiques et libérales prend le pouvoir, loin de se tamiser, de se modérer, au contraire, il accélère le pas.
Il donne sa pleine mesure.
Et nous avons un réel danger, si Marine Le Pen arrive au pouvoir, que via des référendums, comme elle l'a promis, elle démantèle non seulement la construction européenne, à laquelle je pense vous êtes attaché, mais aussi les institutions républicaines. Elle va utiliser de manière permanente cette rhétorique qui aura fait son succès, qui est de jouer eh bien le peuple, l'image qu'elle-même construit du peuple contre les institutions, contre les institutions républicaines et nous rejouer le coup du Trocadéro, mais cette fois-ci au pouvoir de manière permanente. Et donc là, on a en particulier dans la Constitution de la Ve République qui accorde un pouvoir énorme au président de la République, un danger grand.
Jean-Louis Bourlange.
Je voudrais dire un mot sur la notion de présomption d'innocence, parce que je trouve qu'elle est utilisée à tort. C'est une notion très importante. Mais la présomption d'innocence, ça n'a de sens que dans une procédure judiciaire, aboutissant ou n'aboutissant pas à des sanctions pénales, qui peuvent être des amendes, voire une privation de liberté. Ici, dans le cas de M. Fillon, nous sommes dans une hypothèse tout à fait différente. Nous avons un certain nombre d'informations et nous sommes amenés à nous former un jugement moral et politique sur une personnalité que nous élisons ou que nous n'élisons pas, et ne pas élire lire quelqu'un, ce n'est pas le mettre en prison, ce n'est pas une sanction. Donc je crois qu'il faut vraiment ne pas accepter cette contamination du vocabulaire judiciaire sur la politique. Le problème qui nous est posé par M. Fillon est d'un autre ordre. Sur le front national, je crois qu'il y a non seulement le risque économique et le risque européen qui a été signalé de façon tout à fait juste à l'instant, mais il y a également un risque politique important. Je crois qu'on oublie des choses, on oublie qu'il y a en France une extrême gauche et une extrême gauche et des mouvements islamistes extrêmement acquis à la violence, et que l'élection du Front National, d'une candidate du Front National, les excitera et provoquera, risque de provoquer des tensions immédiates et importante. Et que face à cela, la présidente de la République, que serait Madame Le Pen, ne serait pas désarmée constitutionnellement, qu'elle dispose de l'article 16 qui peut lui donner la totalité des pouvoirs civils, judiciaires et militaires, si je puis dire, et que donc nous pouvons arriver à des situations d'affrontement extrêmement vives, extrêmement rapides, avec effectivement des forces de l'ordre qui sont actuellement très démoralisées, très portées elle-même à des réactions. Donc je crois que la France est quand même menacée actuellement de tensions très forte et qu'il ne faut pas et qu'il faut prendre garde à cela. Et ce qui se passe à droite montre effectivement que nous sommes sortis de la période de consensus sur laquelle nous avons vécu pratiquement depuis la fin de la guerre d'Algérie.
Jérôme Jaffray, sur l'hypothèse oui. Marine Le Pen.
Oui. Brièvement, mais madame a souligné, notre auditrice a souligné qu'il y aurait une cohabitation si Marine Le Pen est élue présidente de la République, pensant donc qu'il y aura une majorité qui s'opposera à elle aux législatives suivantes. Ce n'est pas certain, car une élection de Marine Le Pen pourrait provoquer un éclatement de la droite entre deux blocs, ceux qui refuseraient complètement d'aller chez Marine Le Pen, effectivement, mais une partie qui ferait une sorte d'union des droites, qui accepterait de jouer le jeu avec Marine Le Pen et qui pourrait donc conduire à une majorité, même si Marine Le Pen devrait effectivement composer quand même avec cette partie de la droite. Enfin, on voit bien chez les Républicains qu'il y a un certain nombre de leaders qui pourraient rentrer dans ce jeu de dispositif, même si le but de la politique, normalement, s'ils en avaient envie, c'est d'être en position dominante et pas en position dominée. C'est de ne pas être le parti second du Front National, mais d'être le parti dominant. Mais cette question de savoir si à l'avenir, une partie de la droite pourrait faire alliance avec le Front National reviendrait immédiatement et très fortement en cas d'élection de Marine Le Pen et ferait donc que le calcul qui est « c'est pas grave si on élit Marine Le Pen, on lui mettra une majorité contraire aux législatives suivantes », c'était le calcul de Jacques Chirac en 1981 par exemple, qui considérait que François Mitterrand est élu président de la République. Pas grave, j'ai fait battre Giscard, mais on va mettre une majorité de droite contre Mitterrand et ce septennat, puisqu'à l'époque c'était un septennat, ce septennat durera pas longtemps. Il y a eu une majorité absolue socialiste aux législatives de 81 qui ont suivi la victoire de François Mitterrand.
Philippe, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci à vous. Et j'espère que vous me recevrez bien parce que je suis à l'extérieur, je promène mon chien, donc vous voyez, je me suis mis un peu à l'abri.
Allez-y, allez-y.
Voilà. Alors écoutez, pour faire assez court, une première chose, si vous voulez, par rapport au sondage, s'il vous plaît, prudence. On a vu ce que cela a donné au niveau de la primaire de la gauche et de la droite. Premier point. Deuxième point, si vous voulez, je voulais simplement savoir si vous partagez, enfin vos invités, vous-même, mon avis qui consiste à dire que malgré la défaite cuisante de Sarkozy lors des primaires, malgré sa défaite en 2012 face à Hollande, il reste au centre du jeu au niveau de ses primaires. Et j'ai plusieurs éléments qui me font dire qu'il s'agit de cela. Observez, dans les premières difficultés de Fillon, il a été voir Sarkozy. C'est lui qui a été dans son bureau et nous l'inverse. Il vient de recevoir Accoyer et également M. Larcher, président du Sénat. Donc voilà. Et j'observe, si vous voulez, un certain nombre d'interventions de ces lieutenants. Je pense tout récemment à Estrosi, avec sa manœuvre, si vous voulez, pour essayer d'écarter ou de pousser Fillon à la sortie. Je pense à Nadine Morano, que j'ai également entendu. Et je pense que, si vous voulez, de façon déguisée ou si vous voulez, en arrière-plan, je pense que des gens comme Dati, Balkany et autres qui ont une sainte horreur de Fillon le poussent à la sortie. Et pour terminer, je constate également que Baroin et Juppé, c'est une autorité publique qui se détestent, et que si vous voulez, sans trop l'air d'y toucher, eh bien ma foi, il a réussi à écarter celui qui était finalement l'alternative possible et crédible dans cette élection, à savoir Alain Juppé. Donc voilà, tout cela, si vous voulez me dire que c'est assez nauséabond et qu'il contribue peut-être largement à ce climat délétère qui touche à droite et qui risque effectivement de la mettre hors jeu lors de l'élection
présidentielle. Oui. Merci, donc, voilà, merci Philippe pour cette question. On va faire circuler la parole ici en studio. Saluez de notre part votre chien, une caresse amicale à lui. Jérôme Jaffray.
Eh ben, je vois en tout cas des discussions nourries avec le chien tous les soirs, oui. Apparemment, hein, car notre auditeur est très très pointu sur le suivi des choses. Prudent sur les sondages, oui, absolument, vous avez raison. D'autant, alors pour les primaires, mettons les choses un peu à part, le problème c'est que la base électorale pour les primaires, elle est flottante. On ne sait pas qui va voter, qui vient voter. Prenons la primaire de la droite, par exemple, dans les derniers jours, il y a à peu près 1 million d'électeurs qui ont décidé dans les derniers jours qu'ils iraient voter au premier tour, alors que jusque-là, ils n'étaient pas participants. Donc, c'est très difficile pour ce type de scrutin dans lesquels c'est le volontariat complet qui joue et qui rend les choses plus incertaines. Et par exemple aussi, pour la présidentielle actuellement, c'est là où je rejoins bien la prudence, par exemple, les électeurs qui ont l'intention de voter Emmanuel Macron, dans le sondage Kantar Sofres, Le Figaro, paru ce matin, je regardais le détail des chiffres. 61% des électeurs qui ont l'intention aujourd'hui de voter Macron disent qu'ils peuvent changer d'avis. Alors que nous sommes à des taux, par exemple, de certitude chez Marine Le Pen ou chez François Fillon, dans ce qui reste de l'électorat filloniste, à 60 ou 70% de sûr de leur vote. En d'autres termes, les macronistes d'aujourd'hui sont des électeurs qui se cherchent, qui cherchent leur candidat. Ils sont aujourd'hui sur Macron, mais s'il y avait une offre différente, ils pourraient évoluer. Cela dit, pour Nicolas Sarkozy, oui, effectivement, hein, la retraite politique, c'est un mot finalement que le président Sarkozy, qui a lui aussi, cher Raphaël Glucksmann, prononcé d'excellents discours d'adieu, qui n'ont, été suivis d'aucun effet.
Oui, il est bon au discours d'adieu.
Il est bon au discours d'adieu, et comme finalement il ne renonce jamais, il peut nous faire des discours d'adieu réguliers. C'est vrai qu'il continue de jouer un rôle important. Vous avez raison. Cela dit, il me semble quand même qu'il ne joue pas complètement contre François Fillon, mais sa règle, c'est les sarkozystes doivent être présents pour jouer un rôle important dans la campagne et en cas de victoire, et à minima, reprendre le parti politique en cas d'échec au soir de la présidence.
Raphaël Glucksmann.
Non, je pense que la France est un pays très étrange où il est apparemment extrêmement compliqué de se retirer de la politique. Quand on perd une élection, quand on est mis en examen, quand on est condamné ou pas par la justice... Et eh bien, on ne se retire pas. Et c'est, je pense, une des raisons de la crise de confiance dans la classe politique, c'est cette incapacité à réellement se retirer. Pourquoi les discours les mieux accueillis sont les discours d'adieu ? Parce qu'à un moment, il faut savoir quitter la sphère politique. Nicolas Sarkozy a été battu aux élections présidentielles, il est quand même revenu après avoir promis qu'il ne reviendrait pas, il a été battu aux primaires et il continue à vouloir jouer au Don Corleone. Et donc là, il y a, à mon avis, une particularité française quand on compare avec nos voisins. Alors, Italie exceptée avec le spectre de Berlusconi qui planait pendant des décennies sur la politique italienne, mais il faut savoir s'arrêter, il faut savoir renouveler la classe politique, il faut savoir à un moment donné enregistrer une défaite ou une condamnation. Et quand en Allemagne le personnage le plus populaire de la vie politique allemande, qui était ministre de la Défense, se retire de la vie politique parce qu'il a été convaincu d'avoir triché à sa thèse d'université, eh bien en France, un multirécidiviste et un multi-loser d'élection continue à vouloir faire la pluie et le beau temps, effectivement, dans sa famille politique. Je pense que c'est un des problèmes fondamentaux de la politique en France.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, je crois qu'il se passe que la candidature Fillon, telle qu'elle évolue, change profondément la donne. Si nous avions à la place Alain Juppé, ce qui est exclu maintenant, nous aurions effectivement une droite... qui serait relativement unifié, mais surtout une extrême droite qui serait réunifiée, parce que tous les gens qui appartiennent à ces familles d'extrême droite différentes, familles de droite profonde, on va dire, catholique d'un côté, disons l'élection de Marion Maréchal et Marine Le Pen, pour prendre ces deux pôles, se retrouveraient unis. Et on aurait sans doute une extrême droite très forte. Mais à l'inverse, à partir du moment où Fillon réassume son rôle, il introduit une concurrence et nous allons avoir deux extrêmes droites. Je ne dis pas que Fillon soit d'extrême droite, mais il polarise quand même cet électorat ultra-conservateur, ultra-catholique, que l'électorat du Trocadéro, si je puis dire, d'hier, à côté de Marine Le Pen. Ça peut d'ailleurs avoir un effet de stabilisation sur Marine Le Pen et en même temps, il libère cet électorat de droite centriste humaniste qui, là, rencontre une autre difficulté, c'est la tragédie du centre, c'est-à-dire l'incapacité de ces familles qui sont démocrates chrétiennes, libérales, radicales, extraordinairement individualistes et fragmentées, de se reconnaître autrement que derrière un leader. Quand il y avait Juppé, comme avant il y avait eu Balladur, il y avait eu Barre, etc., le candidat à la présidence de la République formait l'unité de cette famille par-delà ces différences culturelles sur un programme de gouvernement. Là, c'est extrêmement difficile pour elle de se reconstituer, car se reconstituer derrière Macron, c'est aussi se reconstituer derrière un Macron qui ne la représente pas exclusivement, mais qui représente aussi les sociaux-démocrates et d'autres familles. Donc il y a vraiment un problème d'orphelinat, si je puis dire, du centre.
Un dernier tour de table sur ce que vous pointiez, Jérôme Jaffray, comment l'expliquer, la fragilité des intentions de vote et de l'électorat promis à Emmanuel Macron ?
Ben, tout simplement parce que c'est la résultante aujourd'hui de cette extraordinaire situation politique que nous vivons, incroyable. C'est-à-dire que nous avons effectivement une Macron est aujourd'hui, je dirais, le candidat raisonnable pour la gauche, le candidat idéal pour le centre et le candidat de remplacement pour une partie importante de la droite humaniste.
Mais alors, pourquoi c'est pas cristallisé, comme on dit?
Parce que, précisément, idéologiquement, c'est tellement différent et ça ne s'organise pas dans une force politique. C'est aussi ça le problème Macron derrière. Macron, c'est un peu 25% des intentions de vote. Quand je regarde ce que représente dans les sondages son mouvement En Marche, quand on maintenant figure dans la liste des partis politiques dont on se sent proche, est-ce qu'on se sent proche du Parti Socialiste, du Modem, de l'UDI, d'En Marche? En Marche, c'est à peu près 7%, 5, 6 à 7%. C'est-à-dire que, évidemment, si Macron est élu président de la République, il peut espérer qu'il y aura un mouvement politique en sa faveur. Mais nous sommes dans une situation type 1958, d'une certaine façon. Le problème, c'est que Macron, c'est un peu le général de Gaulle, mais tout de même la stature en moins, me semble-t-il. Et à partir de ce moment-là,
la jeunesse en plus,
même s'il n'envisage pas de commencer une carrière de dictateur à 39 ans, bien entendu, comme le général de Gaulle avait répondu à sa conférence de presse qu'il n'envisageait pas de commencer une carrière de dictateur à 67 ans. Mais on voit bien, il n'y a pas de force politique et Macron n'unifie pas idéologiquement parce que précisément, il cherche à construire une candidature présidentielle en agglomérant des électorats différents. Mais si vous avez un Benoît Hamon jugé trop à gauche et un François Fillon qui à la fois est trop rigide sur le plan de son projet, trop décalé idéologiquement vers une droite populiste et gâché sur le plan de son image personnelle, et si Macron est le réceptacle du reste, ben c'est fantastique pour lui, mais en même temps je trouve que 25% d'intention de vote, c'est pas cher payé avec une situation aussi exceptionnelle.
Raphaël Glucksmann a l'air accablé, parole.
Pas du tout, non, c'est effectivement...
J'espère que c'est pas par mes propos.
Non, absolument pas, c'est un réceptacle des déceptions à droite et à gauche, c'est aussi le problème qui se pose à lui, c'est que en refusant de vouloir cliver, en voulant être aimé par des publics très différents, eh bien il rend son vote structurellement fragile. C'est-à-dire que la politique, c'est aussi des clivages. C'est aussi une identification à des clivages. Et donc, il va falloir qu'il invente de nouveaux clivages s'il veut solidifier son électorat. Mais pour l'instant, il y a trop de volonté d'être aimé par tous. Or, à un moment, il faut accepter d'être détesté par certains. Et l'autre chose, c'est que par-delà le cas de Macron, ce qui est fascinant, c'est l'instabilité de tous les électorats. C'est la panique des électeurs français aujourd'hui qui ne savent absolument pas pour qui voter. Moi, j'étais place de la République hier. Les gens ne savent pas pour qui voter. Les gens de gauche comme les gens de droite. C'est ça la caractéristique de la scène politique actuelle.
Il reste une minute, Jean-Louis Bollange. Est-ce que vous pouvez tenir dans ces 60 secondes pour une dernière intervention?
Oui, je crois que les clivages, ce que disait Raphaël Glucksmann à l'instant, sur les clivages est très important. Il faut absolument que Macron cercle son royaume. Mais il y a les éléments. Nous sommes confrontés aujourd'hui à deux grands mouvements. Le mouvement traditionnel d'une économie ouverte, fondée sur l'entreprise, fondée sur la régulation et la protection sociale, fondée sur le respect des droits, et une tendance autoritaire, protectionniste, nationaliste, souverainiste, à droite et à gauche. Ce sont deux philosophies profondes qui s'affrontent. Simplement, le camp Macron, qui est le camp de cette philosophie, est alimenté par des cultures politiques radicalement, mais très profondément différentes. Il faut donc fédérer cette diversité, mais ne pas et faire du et droite et gauche, et non pas du ni droite ni gauche.
Vous avez réussi à le dire en une minute, Jean-Louis Bourlange.
Je m'améliore, c'est l'effet d'éviction.
Félicitations, merci Jérôme Jaffray, Jean-Louis Bourlange, Raphaël Glucksmann, merci aux auditeurs de France Inter. Le journal à suivre.